toucher roi, et Dieu celui qui est vaincu, écrasé, supprimé, broyé, anéanti. Il faut penser à l'envers. Des pensées les plus sublimes de l'humain. Il faut abandonner son esprit, son intelligence à la ténèbre parfaite. Et dans cette ténèbre parfaite, renoncer à toute autre lumière que celle de la vérité du royaume, de la paix, d'une confiance aveugle à l'intérieur de notre royaume, celui de l'amour éternel, amour qu'il fallait à notre temps pour comprendre que c'est le dépouillement total qui représente l'amour dans sa substance, dans son offrande suprême, pour découvrir dans l'anéantissement la disparition dans la croix, la plus haute manifestation de la royauté de la toute-puissance de Dieu. Les hommes, même les meilleurs, ont abandonné leur Messie et leur Maître, alors que c'était à l'instant même qu'éclatait son triomphe, à l'instant même qu'il prouvait qu'il était Dieu, Roi, Seigneur de l'univers. Jésus n'a jamais été autant Dieu en personne, Dieu, qu'il est de toute façon par hypostase et par nature, que lorsque il a disparu à ses propres yeux, faisant tout pour disparaître aux yeux même du Père, alors que qu'il le voit le Père, et lui, s'il ne voit pas le Père, c'est parce qu'il ne se regarde pas lui-même. La disparition du Christ à ses propres yeux a permis cet anéantissement, cette offrande, cette expiration, cette disparition d'amour. Le royaume de Dieu est venu au milieu de nous. Son royaume, sa royauté, Jésus, son onction, c'est celle qui s'écoule hors de lui-même, à l'intérieur de l'indivisibilité de Dieu créateur. Les principes de sa propre éternité incréée. Ah, nous fêtons quand nous fêtons la solennité pour terminer une année liturgique. En fait, c'est ce qu'il y a de nos années liturgiques sont merveilleuses parce que elles durent un an, mais en fait elles durent 3 ans. C'est 3 en 1, 1 en 3. Nous rentrons en fait dans la dernière année. C'est l'année B qui se termine là. Nous rentrons dans l'année C. C'est un cycle trinitaire. Et 3 fois nous allons célébrer. Dans ce temps de l'offrande, les trois manières dont le royaume de Dieu a créé l'univers. Dieu a créé l'univers à travers le Christ. Le principe de la création de toutes choses ainsi que le principe même dans son fruit, de la fécondité intime et intérieure et intime, un créé éternel de Dieu. C'est le Christ. Aussi bien à l'intérieur de ce Christ, toutes les profondeurs de l'unité indivisible de Dieu, que à l'extra, c'est-à-dire dans la créateur, c'est le Christ. C'est une onction, c'est une royauté. Le Christ est le principe. Il est le roi. Il est la révélation consubstantielle du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et la vérité non seulement du principe, étant lui-même le principe de la création. Et il nous révèle que, étant principe de la création, c'est un principe d'amour, de vérité et d'éternité. Et comme c'est un principe d'amour et de vérité et d'éternité, aussitôt qu'il est principe, aussitôt il disparaît. Parce que l'amour fait que l'autre seul apparaît devant ses yeux. Et qu'il disparaît devant l'apparition. Et il nous indique aussi que l'amour véritable, le principe de création, est forcément l'acte pur de Dieu. Et donc, il n'est pas derrière nous, comme se représentent les hommes, mais il est devant nous. L'acte pur, c'est le bien créé, la fin terminale de l'acte pur, de l'accomplissement de toutes choses. Il n'y a rien qui soit en puissance à l'intérieur de Dieu, à l'intérieur du Christ. Il a voulu rejoindre ce qui est en puissance pour pouvoir manifester que tout a été fondé en lui. Et pour renouveler de cette manière, dans un deuxième principe de rechute, un deuxième effacement, consubstantiel à lui-même pour la création et le réengendrement du royaume de la création tout entière en lui accompli pour le faire pénétrer à l'intérieur de l'unique indivisibilité consubstantielle de Dieu. C'est pour ça que dès lors que Dieu existe, dès lors que Dieu est vivant, dès lors que Dieu est amour, dès lors que Dieu est vérité, dès lors que Dieu est vérité éternellement dans l'amour, aussitôt, la sagesse qui fait la grâce capitale de la lumière de gloire, de la vision béatifique, en lui et dans tous ceux qui sont introduits trop substantiellement dans son royaume de lumière et de vision. Aussitôt, cette sagesse-là, qui est aussi une sagesse terminale accomplie dans l'acte pur, est nécessairement une sagesse de la croix. C'est exactement le contraire de la pensée des hommes. Les hommes, c'est si tu as la dignité, la noblesse, la sagesse, alors on doit te respecter, on doit t'admirer, on doit t'écouter. Et pour le Christ, il n'en est pas ainsi. La sagesse de Dieu est une sagesse d'amour et de vérité. Et Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit, en se rendant consubstantiel dans l'indivisibilité consubstantielle de Dieu, puisqu'il y a un seul Dieu, en se rendant dans tout amour vis-à-vis du Christ, vis-à-vis du principe, du double principe de l'existence dans l'acte pur et de la transglorification éternelle. Le Verbe est devenu chair, ont voulu s'engloutir à l'intérieur du Christ, de sorte que l'unité dans la sagesse de la croix a, du Christ, a emporté le Père, le Fils et le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Parce qu'il est venu dans ce monde pour établir un second principe dans les immenses profondeurs des hypostases consubstantielles de l'indivisibilité de Dieu unique. C'est pour ça que notre Sainte Trinité, c'est le roi du ciel, c'est le roi de gloire, c'est la royauté, c'est pas c'est le roi. Et donc ça, c'est le royaume de la gloire, de toute la gloire éternelle de Dieu. Dans une unité tellement éternelle, tellement principielle, tellement féconde, qu'elle réalise l'union hypostatique de Jésus dans la sagesse de la croix, aussitôt que le Christ est apparu, comme il l'a dit à Ponce Pilate, aussitôt, dès sa naissance, dès sa conception. Par le sein de la Vierge Marie, dès sa conception dans le principe de toute l'existence de toute chose, et de la vérité de toute chose, dans son alpha et dans son oméga, tel principe. Son union hypostatique est une union hypostatique. Dans la sagesse de la croix, et c'est pourquoi sa conception, et sa naissance, sont inscrits dans une unité, celle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans le Christ, du Christ, et qui est venue dans le monde en se déchirant elle-même, en disparaissant elle-même dans la sagesse de la croix. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Roi de gloire, présent dans tout le Est, dans toute la vérité d'acte pur de l'Élargaïa Proté. En chaque existant, participant à l'existence même de Dieu, nous serons présents dans le Christ d'une manière indissoluble. C'est pour ça que l'Église tient récemment, elle dit, voilà, maintenant il faut dire consubstantiel dans le credo. Christ est consubstantiel au Père. Il y a un seul Dieu. C'est le Dieu unique, indivisible. Et aussitôt, quand le Christ vient dans le monde, aussitôt, en raison de l'union hypostatique, en raison de l'amour, en raison de la consubstantialité et de l'indivisibilité du royaume intérieur et éternel, et de Dieu, d'amour, de lumière, aussitôt, il emporte avec lui le Père. Dans le monde, il est venu dans le monde, mais le Père, du coup, le Fils, le Saint-Esprit, viennent avec lui dans le monde, ils participent, enfin, c'est pas qu'ils participent, ils sont consubstantiellement un, dans l'union hypostatique des cieux et de Jésus, pour engendrer le royaume de Dieu, à partir des plus profondes ténèbres, de la disparition d'amour, et de la nuit substantielle de la foi. Il a fait de l'Immaculée Conception cette nuit substantielle de la foi qui donne, pour ainsi dire, le diaphane intérieur glorieux de ce que la foi opère lorsqu'elle engendre le royaume de Dieu pour l'éternité dans le Bereshit de la création tout entière et dans le Bereshit dans le principe de la fécondité de la nature humaine dans cette union hypostatique disparue à l'intérieur du mystère, de la réalité, du ravissement, de l'emportement du vol de l'esprit, de la nature humaine tout entière, dans ce sommeil mystérieux de sa disparition d'amour, en l'accomplissement de l'acte pur de la céleste de la croix, le royaume de Dieu, à un roi. Et quand, dans notre catéchisme, dans la révélation, enfin, dans la Sainte Écriture, dans la doctrine infaillible de l'Église, vous voyez, on dit par exemple que Marie est reine, hein, Jésus est roi, l'Immaculée Conception, dans son déploiement, dès sa conception, est reine. Sa conception est glorieuse. Sa conception est glorieuse aujourd'hui, puisqu'elle est inscrite dans l'anastase de la résurrection. Et cette anastase de la résurrection de Marie, qui déploie son Immaculée Conception, la déploie comme reine immaculée de l'univers, reine du ciel et de la terre, reine à l'intérieur de ce qui scrute toutes les profondeurs de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Parce que c'est pareil pour Jésus, bien sûr. C'est que Marie a une fécondité. Dans son Immaculée Conception, qui vient immédiatement de l'instant de l'union hypostatique déchirée de Jésus dans sa manifestation transsubstantielle, totale, accompli en plénitude. Et Marie, dans son Immaculée Conception, est féconde, puisque elle engendre cette union hypostatique déchirée dans l'assomption qui est la sienne à l'intérieur de la très sainte Trinité, lorsque le Saint-Esprit supervient en elle. La toute puissance de Dieu pour engendrer ce regard de vérité d'amour de Dieu en elle, dans l'instant de la croix. Elle est la mère de Dieu, qui du coup rentre dans ce principe pour établir le royaume de Dieu. Et cette fécondité de Marie par sa foi, par la ténèbre substantielle de sa vie, par sa disparition, son effacement, son sommeil mystérieux, son unité avec l'anéantissement et la souffrance la plus pure de l'offrande de Christ et de Dieu pour venir nous sauver, lorsqu'elle a été emportée en sa dormition, en elle-même, lorsque cette tardement mystérieuse et celle de Jésus, la sienne, ne faisait plus, était indivisible substantiellement dans l'acte pur de sa dormition. Elle a été emportée. Elle est ressuscitée d'entre les morts. Elle a connu une assomption. Et dans son assomption, le premier instant de sa vie sur la terre, dans son Immaculée Conception, a été assumé, ressuscité, établie dans l'anastase. La fécondité qui est la sienne a été, non pas centuplée, mais anastasiée, de manière résurrectionnelle, de manière telle que cette fécondité s'est déployée dans le royaume du Saint-Esprit, dans le Père. Elle qui est un avec la résurrection du Christ, hein, c'est ça. Et c'est pour ça que l'union hypostatique déchirée, la déchirure de la résurrection demeure. Et cette fécondité, lorsque elle est transformée et recréée une troisième fois, parce qu'il y a bien un troisième Bereshit dans le royaume du roi, du ciel et de la terre, Eh bien, il est là, le troisième. C'est pas parce qu'on est dans la résurrection, comme on le disait dans l'évangile d'hier, que du coup, il n'y a plus de fécondité. Ce serait quand même extraordinaire, ça. Il n'y a plus de fécondité. Comment ça, il n'y a plus de fécondité? Mais si, il y a une fécondité. La fécondité de Marie, la fécondité indivisible de l'épousée. Dans l'hypostase de l'épousée, qui est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Et de son cœur, je veux dire, dans l'acte pur de la consubstantialité de Marie et de Jésus, derrière cette spensalité. Hein. Cette fécondité, elle est là, mais glorifiée dans l'anastase, disparaissant elle-même. Hein. Dans la glorification du Saint-Esprit qui fait les délices de la paternité de l'époux. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est reine. Elle engendre Marie, reine immaculée du ciel et de la terre. Ça veut dire qu'elle, c'est sa fécondité de mère vis-à-vis du regard de Dieu à l'intérieur de la glorification de son unité consubstantielle créée. Intégrant la royauté du royaume, victorieux de tous les contraires, dans l'amour. Et bien pour Jésus, c'est pareil. Jésus, il est venu, il a été conçu. Dans ce deuxième récit, ce deuxième principe à l'intérieur de l'Immaculée Conception, assumé à l'intérieur de la très sainte Trinité en Marie, oui, c'est vrai. Dans la nuit substantielle, d'une croix substantielle, parfaite, déjà vécue en elle, par anticipation, par appropriation, par puissance. Où Dieu s'est reconnu, et du coup il a pris chair. Et cette fécondité, qui est celle de Jésus, c'est la même fécondité que la fécondité de la foi. C'est indissociable. Et la fécondité de Jésus, c'est quoi? Il nous a donné, il a fécondé, il a engendré pour le Père, pour chaque élu de la terre, il a engendré le royaume tout entier du Père et du Saint-Esprit dans chaque élu de la terre, par chacun de ceux qui sont les membres vivants de son corps vivant et entier, de son incarnation vivante et entière. Le regard de Dieu engendré par Marie regarde chacun d'entre nous comme étant le royaume tout entier de Dieu. La fécondité du Christ sur la croix, dès sa conception, dans son humanité, puis dans sa naissance, puis toute sa vie, c'est son union hypostatique désirée qui engendre la Jérusalem dernière du royaume de Dieu accompli et immaculé, derrière de chaque membre vivant, de son corps vivant et entier, Jésus vivant et entier. C'est une fécondité prodigieuse que celle que Jésus a eue pendant toute sa vie dans la croix glorieuse, jusqu'à sa résurrection, jusqu'à son ascension. Mais lorsque il est ressuscité d'entre les morts, cette fécondité-là n'a pas disparu. Mais elle s'est non pas centuplée. Elle est devenue consubstantielle, la fécondité incréée et éternelle de l'indivisibilité consubstantielle du Père dans l'émanation du Fils et du Saint-Esprit en une seule hypostase. Il est le roi. Sa fécondité s'est multipliée de cette manière-là, jusqu'à l'intérieur du monde incréé de Dieu. C'est prodigieux, la fécondité du Christ. Lorsque elle est ainsi, au-delà de toutes les victoires d'amour et de lumière et de vérité et d'éternité de sa résurrection, au-delà, puisqu'elle continue à s'en déchirer continuellement pour reproduire cette royauté. À l'intérieur de ce qui scrute la profondeur de l'indivisibilité du Dieu consubstantiel, il y a un seul Dieu. parce que tout s'efface devant l'unité indivisible de Dieu. Même les hypostases, comme dit saint Augustin. Puisque l'époux s'efface devant l'épousé, l'épousé s'efface dans... Et c'est une expiration, c'est un effacement consubstantiel, et l'Esprit Saint, c'est cet effacement. Il est éternellement cet effacement intérieur. Et tout s'efface devant la consubstantialité de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Christ, roi du ciel et de la terre, c'est la preuve que Dieu est un. C'est la preuve que Dieu existe. On connaît d'autres. Si les hommes ne rentrent pas à l'intérieur de la royauté, du royaume, de la Jérusalem accomplie, du troisième Bereshit qui s'y prépare et s'y germe, ils vont entendre Dieu d'une manière qui est humaine. C'est forcé. Mais si Dieu est un, sans la consubstantialité du Christ, le fait aujourd'hui, qui établit cette expiration, cette inspiration, cette inspiration, cette respiration, cette conspiration, un effacement mutuel pour la vérité de l'amour éternel, dans les trois barrages, dans les trois principes qui n'en font qu'un, évidemment. Si Dieu n'est pas cette communion d'effacement des personnes divines, dans la consubstantialité, c'est une unité, c'est une indivisibilité. Mais ça veut dire que Dieu n'a pas d'amour à l'intérieur lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation, d'amour, de vérité, de lumière, de contemplation, de vie. Ça veut dire que Dieu est un monolithiquement, exactement comme un bloc de glace sans fin et sans limite. Mais Dieu est vivant. Dieu est vivant, Dieu est amour. Comment Dieu, si Dieu n'était pas dans le Christ, la manifestation même de ce qu'il est, dans cette communion qu'on appelle la communion de la très sainte Trinité, mais qui est évidente à nos yeux dès lors qu'on rentre dans le royaume de la Jérusalem et que nous la contenons pour y pénétrer. Et y faire pénétrer le troisième principe de création de l'au-delà de la gloire de la vision béatifique. Si on ne vit pas ça, on est obligé d'atteindre Dieu humainement. Alors il y a un seul Dieu, oui, voilà. Et c'est un Dieu qui est extérieur. C'est pas un Dieu qui nous est tout intérieur. C'est un Dieu qui n'est pas amour, puisque il s'aime lui-même. S'il est amour, il est amour de soi. C'est l'ipsolipsisme transcendantal d'amour de soi. C'est l'égoïsme ipsolipsisme transcendantal absolu. Si je prends humainement le fait que tu es un, sans la royauté de la grâce, créée, puis de la grâce parfaite, puis, voilà pour le deuxième verset, puis de la grâce incréée elle-même, dont je suis... l'effacement, dans l'effacement, dont je suis le porteur et l'instrument, que Jésus notre Seigneur inconsubstantiellement. Si c'est pas ça, ça c'est une proclamation. Le royaume de Dieu, lorsque nous proclamons de cette manière-là à la terre tout entière, à l'univers tout entier, au monde intérieur de Dieu lui-même, au monde angélique au-dessus duquel nous nous trouvons, pour qu'il vienne s'y absorber lui-même dans l'extase, dans le vol de l'esprit et la disparition de leur plénitude sans limite et sans fin de leur propre gloire. Cette révélation engendre la vérité. Voilà que ce que Ponce Pilate ne pouvait pas accepter. C'est magnifique, hein, c'est vrai, c'est tout évangile. J'ai dit, je suis roi. C'est toi-même qui viens de le dire. C'est en étant le plus disparu, le plus anéanti possible, qu'il prouve qu'il est le roi. de la vérité, de l'amour et de l'éternité. Pour les stoïciens, pense Pilate, ça c'est une injure de dire une chose pareille. La vérité n'existe pas. Et Dieu non plus. Alors que lui, il en est le garant. Et ça, c'est bien plus grave que d'être condamné par un Sanhédrin que les Juifs lui amènent ce type-là. Enfin. Donc plus nous sommes crucifiés, plus nous sommes alertés, plus nous sommes disparus aux yeux de tous, de Dieu lui-même comme Jésus, pour que le mystère, enfin pas le mystère, mais la fécondité qui est la sienne puisse exploser et se répandre inexorablement, invinciblement partout, dans la victoire de son amour surtout. Plus nous serons dans cette sagesse de la croix, plus nous serons dans cette folie d'amour, plus nous serons dans le royaume du roi. Et nous sommes donc confondus avec le principe de toutes choses. Et nous aurons autorité sur, en tant que principe de toutes choses, sur toutes choses avec lui. Sur toutes choses qui relèvent de la nature, de l'univers, du temps, de l'espace, mais aussi de la participation à la vie divine dans son accomplissement dans l'acte de gloire, mais aussi de l'indivisibilité de Dieu dans lequel effacement mutuel, nous le trouverons dans là. C'est pour ça, vous voyez, quand on dit que de vivre du bien, l'amour, de vivre de la vérité, la lumière, ça suffit, ce n'est pas vrai. Il faut vivre aussi de l'un, qui est notre nourriture et notre substance, et notre intellect ayant protège, si je puis dire, au premier instant de notre conception, en pleine lucidité, en pleine liberté, en pleine disparition à l'intérieur de celui qui nous y illumine pour nous montrer la sagesse de la croix à laquelle nous avons adhéré d'une manière consubstantielle dans l'un. L'un est notre nourriture. Comme l'amour, le bien est notre nourriture, à part au cœur spirituel, et comme la vérité est notre nourriture, par rapport à ce qui rassasie notre esprit dans la lumière. Là est notre nourriture dans le royaume du roi, du Christ, consubstantiel à notre Sainte en sa fécondité à l'intérieur de ce qui scrute les uns, le monde créé de Dieu lui-même, dans lequel nous sommes en train de pénétrer pour y être unis, dans une unité totale, sans voile, au-delà de la lumière de la vision béatifique. Si le Christ n'est pas là, alors à ce moment-là, ma foi, si j'aime Dieu, s'arrête à la révélation d'un Dieu qui est un égoïste, total, substantiel, agréé, éternel. Et qu'il n'y a rien de plus blasphématoire que de croire en un Dieu qui n'est pas amour en vérité, mais qu'en substance a été dans le royaume de la mort. Glorieux du Christ. Il n'y a pas plus grand blasphème que de considérer que Dieu, c'est celui qui s'aime lui-même, et puis c'est tout. Parce que là, il n'est pas très différent de l'empereur de Rome. Il n'est pas si différent de Lucifer. Mais lorsque ceux qui croient en Dieu unique vont voir le Christ proposer son troisième Bereshit, son créateur dans la Jérusalem nouvelle, ils vont voir le Christ, ils vont reconnaître celui qui rend véritable et vrai ce à quoi ils ont cru depuis toujours dans l'unicité de Dieu. Parce qu'ils vont voir que c'est à l'intérieur de cette trinité consubstantielle, que la séparation entre Lucifer et Dieu se fait. Et ils seront arrachés au pouvoir de Lucifer et à l'esprit de ce monde, et cette vision humaine de la religion. La vision humaine de la religion, la vision satanique de la religion sont une seule chose. Ce que Jésus avait dit à Saint-Pierre, il avait dit, arrière de moi Satan, passe derrière moi, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, celles de Satan. Ce sont des pensées humaines. Alors tous ceux qui croient en Dieu unique, qui verront le Christ dans sa manifestation et qu'ils vont y pénétrer, ils vont continuer à croire à l'unicité de Dieu, l'indivisibilité du Dieu unique, mais en comprenant que c'est une indivisibilité d'amour, ils se nourriront de l'indivisibilité des personnes divines dans l'unique consubstantialité de Dieu. Et le Fils, bien sûr, le Christ, est consubstantiel au Père. Et il nous fait entendre, voir et nous épanouir, ressusciter et aller au-delà de la résurrection dans la consubstantialité du Saint-Esprit. Parce que le Christ est consubstantiel au Saint-Esprit. Il est lui-même la consubstantialité du Fils dans l'union hypostatique désirée. Son effacement, sa disparition dans l'unique indivisibilité d'amour, de lumière, de l'un créé de Dieu qui est la nourriture du royaume du Christ. De sorte que le royaume du Christ, la royauté du Christ, nous irons la chercher dans son principe, en plongeant notre conception dans sa conception. La mémoire de cette unité, c'est le seul moyen pour le royaume de Dieu de la terre de mériter dans une grâce méritoire l'ouverture des temps et des sceaux de l'Apocalypse où le Christ dit je suis l'alpha et l'oméga. Ça c'est une réalité qui est à l'intérieur de nous, il faut s'y engloutir éperdument. Que plus rien n'existe ce monde que cette réalité vivante de la vérité tout entière du Christ, moi, dans ses trois fécondités, les trois en une font qu'il est le roi. La fécondité lorsqu'elle est au-delà de la gloire de la résurrection, c'est ça qu'on appelle la royauté en théologie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus.